Je suis Benjamin Kolbok, architecte, agence COSA. Je vais vous présenter le travail que nous menons avec le groupe Legendre, donc Legendre Immobilier, Claire Blanchard qui est ici, sur l'îlot dit îlot Fourrière. Donc ça, c'est le nom de notre agence. Nous sommes une assez jeune agence qui travaillons sur des équipements, sur des bureaux, sur des logements, des programmes mixtes et puis sur des hôtels aussi. Donc là, en l'occurrence, le cœur de notre sujet, nous, ça va être un hôtel. Mais je vais vous présenter aussi le travail qui a été mené autour de l'îlot Fourrière et la tentative de redessiner ce paysage du quartier Bacalan. Alors, bon, inutile de préciser qu'on est dans le quartier des bassins à flots, autour de l'écluse, juste à côté de la Cité du Vin, qui vient d'être livrée. Donc, un ancien site industriel que vous connaissez certainement. Évidemment, absolument magnifique dans son échelle, totalement en devenir actuellement. Donc là, on voit une photo du début du XXe siècle. Avec les entreprises, avec les industries navales qui s'étaient installées autour du bassin. L'écluse est notre site, donc qui est. Attendez que je trouve le pointeur. Bon, notre site qui est sur la partie droite de l'écluse. Le long de cette écluse, il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale la construction d'un bunker qui a été provisoire, qui a été démoli dès 1947. Et évidemment, un peu plus loin, la base sous-marine qui est toujours en place et qui va bientôt être un lieu de reconversion à venir. Ça, c'est une photo du site en 1975. Donc, notre site à proprement parler, c'est le site des silos. Donc, l'ancienne fourrière, pour ceux qui ont été chercher leur voiture ici, et le hangar démoli depuis, qui vient sur les fondations de l'ancien bunker qui protégeait l'écluse. Donc un site extrêmement disparate, marqué par des grands volumes. Certains subsistent. Les silos, évidemment, subsistent. L'écluse est en place. Il y a une grosse opération en face sur le site mené avec des logements, etc., mené, je crois, par Cogedim, c'est ça. Et nous développons autour de la Cité du Vin, qui est évidemment une attraction majeure pour pour les bassins, une programmation alors mixte, portée par Legendre Immobilier depuis 2 ans maintenant, qui accueille un parking qui est rentré en fonctionnement, un parking silo de 400 places, des bureaux, une halle dite halle des saveurs, et là en l'occurrence une programmation aussi à venir d'une grosse partie que je vais vous présenter, d'un hôtel 3 étoiles, d'un hôtel 5 étoiles et d'une structure para-hôtelière. Donc évidemment on comprend que cette programmation assez ambitieuse, attractive, assez liée au terroir aussi, est évidemment et au tourisme, est très liée à la présence de la Cité du Vin et de l'attractivité sur laquelle mise le groupe, Legendre, de ce site en devenir. Le quartier des bassins donc, est un quartier, alors je ne vais pas vous le présenter parce qu'il y aurait beaucoup trop de choses à dire et surtout Nicolas Michelin le ferait beaucoup mieux que moi. Néanmoins, nous sommes donc dans l'îlot dit Fourrière. Donc on finit toute une première partie qui vient d'être livrée. On va commencer à voir les espaces publics se dessiner, se compléter dans cette partie-là qui, je pense, va trouver un peu plus de cohérence dès lors que nous aurons fini nos travaux. Donc, c'est en pointillé, vous voyez le site. Sur ce site, il y a les silos. Il y a aussi la maison des écluses, qui est une maison à rez-de-chaussée qui contient les pompes d'alimentation des bassins. Donc, ce sont d'énormes pompes qui permettent d'alimenter, de remonter le niveau des bassins ou au contraire de l'évacuer. Et c'est un petit bâtiment qui est assez surprenant parce que quand on le regarde, on a l'impression que c'est un rez-de-chaussée tout bas. Et en fait, c'est une structure déjà industrielle très, très haute. Et son échelle est parfaitement trompeuse. Et nous sommes donc à côté de la Cité du Vin et de l'arrêt du tramway. Alors, il y a eu un concours organisé il y a quelques années, porté par Bordeaux Métropole Aménagement, qui a vu le projet d'Ibo Sévitard gagner avec une programmation qui était le parking silo, des bureaux, la halle des saveurs et un complexe hôtelier. Donc, vous avez à l'extrême droite le bâtiment de parking silo qui est construit désormais, les bureaux qui sont en chantier actuellement, l'halle des saveurs qui est en chantier. On devine les silos derrière un volume évanescent qui vont être la structure hôtelière. L'Halle des Saveurs, c'est un programme donc porté par Legendre Immobilier, construit par Legendre Construction, l'intérêt du groupe Legendre, qui est un lieu de restauration, de vente aussi, donc quelque chose qui est assez intéressant parce qu'à destination évidemment touristique et en même temps complètement à l'adresse du quartier. Donc ce type de programme très mixte, très poreux et avec des capacités d'évoluer à terme qui sont extrêmement intéressantes. Et une échelle qui se dessine donc là entre les bureaux et la halle des saveurs sur des bâtiments qui sont à rez-de-chaussée, un R+1 ponctuel dans le cas de la halle des saveurs et un R+2 dans le cas du bâtiment de bureau. Alors cette partie-là a été développée par Ibo Sévitard et nous sommes intervenus sur la partie qui se situe derrière nous quand on regarde cette image. Qui est un hôtel 3 étoiles, un hôtel 4-5 étoiles et une structure para-hôtelière. Le site actuellement, si vous allez le visiter, c'est ça. Donc on a la halle des saveurs avec son revêtement bois qui est en cours de construction, le bâtiment de bureau qui est en cours de construction aussi, le parking silo derrière qui a été livré, la maison des écluses devant le... Attendez, je vais essayer de voir un pointeur, c'est assez... Non... Attendez. Alors, j'ai le pointeur, mais effectivement, sur l'écran, ça ne marche pas du tout. Alors, donc, on a la maison des écluses, qui est ce bâtiment qui a l'air d'être à rez-de-chaussée, sachant qu'ici, on a un petit bâtiment de bureau qui est voué à disparaître, qui est à R+1, donc de deux niveaux. Vous voyez l'échelle qu'on a par rapport à la maison des écluses. Et les silos, évidemment, que l'on voit de très loin dans Bordeaux, qui dominaient totalement le quartier, avant évidemment l'arrivée de la Cité du Vin. Une autre vue du site actuellement. Donc pour ceux qui l'ont pratiqué, nous avons le parking silo qui vient d'être livré. Et puis la partie provisoire du parking, qui a été au lancement de la Cité du Vin utilisé comme au pied des silos. Et maintenant, on utilise évidemment le parking des silos. Donc, vous voyez ces grands objets qui se dessinent, se mettent en place autour. Donc là, actuellement, d'un parking, il reste un vide. Et tout le problème et toute la question, en règle générale, j'ai le sentiment au bassin, c'est de trouver l'échelle adéquate. Il y a une volonté très claire dans la halle des saveurs d'avoir une espèce de très grand volume comme ça, lancé, qui évidemment alors, n'est pas sans rappeler la masse et l'échelle du bunker qui contrôlait l'écluse, mais il y a évidemment surtout qui est à l'échelle des structures portuaires et des structures industrielles qu'on pouvait trouver ici. De la même façon, le parking silo avec une écriture très, très franche, métallique, industriel assume complètement ce passé-là. Néanmoins, et c'est la difficulté de relecture de ce site, il s'agit aussi de faire un lieu attractif d'un point de vue touristique. Il s'agit aussi de compléter, mine de rien, un petit morceau de ville. C'est-à-dire qu'on commence à voir une sorte de cohérence urbaine se dresser parfois dans les bassins. Quand les quartiers sont finis, notamment le quartier aménagé par Christian de Portzamparc, que vous voyez à gauche des silos, où on commence à voir une certaine cohérence, un grand fractionnement des masses bâties, etc. Donc, l'énorme complexité, quand on intervient comme ça, c'est la spécificité pour nous de ce projet-là, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire un projet qui complète un projet déjà en cours. Donc là, on parle du projet porté par le Gendre Immobilier, mais qui complète aussi un morceau de quartier qui a été commencé avec la Cité du Vin d'un côté, ce quartier animé par Christian Porzamparc de l'autre côté, et évidemment, tout le quartier des bassins pensé par ANMA et l'Atelier des bassins. Donc si on fait abstraction et qu'on gomme, qu'on met un coup de blanc sur l'ensemble des masses bâties, et qu'on les traite toutes de la même façon, qu'elles soient très vieilles, liées totalement à l'histoire du site, comme les silos ou la maison des écluses, ou beaucoup plus récentes, comme la cité du vin ou le quartier animé par Christian de Porzamparc, voire en chantier, la halle des saveurs, le bâtiment de bureau et le parking silo. Il reste une surface qui n'est pas si grande que ça, qui vient entre différentes masses bâties avec des échelles qui sont extrêmement fragmentées, dominées totalement par les silos qui ont une hauteur de 37 mètres, donc qui sont totalement au-delà de ce qu'autorise le PLU actuellement, avec évidemment des suites de données liées au PLU à respecter, et qui rend l'exercice un petit peu compliqué, d'autant plus qu'il faut réussir à disposer les trois éléments de programme sur une parcelle qui est assez petite, donc 8000 mètres carrés, si on retire la maison des écluses. Et il va falloir donner du sens à tout ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour mettre un hôtel 5 étoiles qui soit un hôtel 5 étoiles, donc théoriquement plus attractif qu'un hôtel 3 étoiles, théoriquement plus attractif aussi que du para-hôtelier, mais qui en même temps donc offre plus que le 3 étoiles, mais avec un 3 étoiles qui a suffisamment de qualité pour qu'on ait quand même envie d'y aller et que ce ne soit pas moins que le 5 étoiles. Donc un véritable casse-tête qu'on a, sur lequel on a réfléchi avec le groupe Legendre, en se donnant quelques règles du jeu, en ménageant le long des bureaux et du parking silo une venelle plantée qui prolonge la venelle vers le nord, qui borde le quartier animé par Christian Porzamparc, puis plus loin une opération menée par ANMA. Donc, qui est le retrait de 15 mètres qui est indiqué sur cette petite axonométrie, et un recul de 6 mètres de délicatesse de la maison des écluses qui permet de tenir le projet un petit peu à distance. On a donc un périmètre d'intervention qui en lui-même fait sens, c'est-à-dire qu'on est bien bordé par trois rues, c'est-à-dire la Venelle côté bureau et parking, côté bureau et parking, la rue du Maroc au nord, donc au nord des silos, et côté bassin, le quai de la Gironde, non, ou le quai de la Garonne. Alors, c'est le quai du Maroc et la rue de la Gironde au nord, pardon, excusez-moi. Donc, on a trois espaces publics assez constitués. Reste à se poser la question de ce qui va pouvoir se passer au sud, côté Halle des Saveurs. L'idée en même temps de l'Halle des Saveurs, c'est ce grand volume que vous commencez à voir, qui est totalement vitré, très ouvert sur l'espace public. Donc l'objectif, c'est de considérer le cœur d'îlot comme un espace public animé dans lequel on pourrait imaginer des terrasses et la halle des saveurs proposer trouver des aménagements extérieurs possibles pour la halle des saveurs. Mais donc aussi éventuellement pour nos complexes hôteliers. Il y a en règle générale au silo et même globalement dans la pensée urbaine, une volonté de tenir l'espace public, en tout cas d'essayer d'accompagner l'espace public et de marquer une délimitation nette entre espace public et espace privé. Ici, qui n'est pas facile dans la mesure où ce sont des programmes qui ont par définition vocation à être assez poreux. Ce ne sont pas des résidences de logement ou des bâtiments de bureaux, ce sont des éléments qui vont proposer différents programmes au rez-de-chaussée, des brasseries, des halls évidemment, des salles de réunion. Donc il faut en même temps marquer l'espace public en venant s'aligner sur la rue et en même temps trouver des lieux de porosité. Alors l'idée est très simple, c'est d'organiser autour de ce périmètre les trois programmes. Le programme 1 sera l'hôtel 3 étoiles, le 2 le 5 étoiles et le 3 le para-hôtelier. Alors pourquoi ? C'est qu'on mise sur le fait qu'on va construire un jardin qu'on appelle le jardin des silos au centre de ce dispositif. L'objectif de jardin, c'est au-delà de trouver de la pleine terre, au-delà de l'agrément, c'est aussi une mise en valeur des silos. Pour ceux qui ont eu l'occasion d'y aller, ça c'est une cimenterie à Barcelone dans laquelle l'architecte Ricardo Bofill a installé son agence. Donc c'est une ancienne cimenterie avec les grignotés par la végétation totalement. Là, on y voit la salle de réunion dite la cathédrale. Et c'est dans les images qui nous sont tout de suite venues qu'on s'est projeté sur l'intérêt qu'on pouvait avoir d'utiliser un jardin extrêmement dense, luxuriant, qu'on espère assez sauvage à terme, venir grignoter et envahir un petit peu ces silos. Donc, ces trois programmes prennent sens soudainement. C'est-à-dire qu'on a le 3 étoiles, donc le volume qui est sur le quai du Maroc, qui est à 18 mètres de haut, qui va bénéficier de vues de façon assez naturelle. D'un côté, des vues dégagées plein ouest sur les bassins. De l'autre côté, plein est sur le jardin dit des silos. On va trouver l'autre volume à 18 mètres, c'est la résidence de la structure par hôtelière, qui vient en cœur du quartier. Alors une structure par hôtelière, ça va être des logements pour jeunes actifs, ça va être une auberge jeunesse, une chose qui est beaucoup plus vivante, entre guillemets, beaucoup plus passante, beaucoup plus animée, avec des gens qui vont y résider pendant quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Donc on l'a positionnée au cœur du quartier de façon à ce qu'elle soit vraiment à l'interface et qu'on ne fabrique pas un gros programme touristique qui tienne le quartier à l'écart et au contraire utiliser ce programme pour faire lien. Et puis vers le sud, sur un volume à 28 mètres qui est le maximum possible dans la zone, on propose un hôtel 5 étoiles qui lui a la majorité des chambres plein sud avec la vue sur la vieille ville et sur les écluses et sinon quelques chambres au nord donnant sur le jardin des silos. Comme vous le savez, on a le souhait autour des bassins de travailler des jeux de toiture qui reprennent un petit peu le skyline industriel, l'histoire du site. Donc ça, c'est la volumétrie initiale de laquelle on est parti, qui nous a semblé par trop brute. Donc on a fait des suites de petites manipulations, alors qu'ils vont être très imperceptibles, il faut suivre et jouer au jeu des 7 erreurs. On a un tout petit peu tourné l'hôtel, le 4-5 étoiles, pour se remettre bien perpendiculaire par rapport à la venelle. Alors, l'objectif n'est pas tellement la venelle, l'objectif, vous voyez, c'est de... Vous avez à gauche la géométrie d'origine, à droite, la petite manipulation. L'objectif, c'est d'essayer d'ouvrir au maximum le quai vers la cité du vin et de bien marquer le passage et le passage public entre le volume du 3 étoiles et la maison des écluses vers la cité du vin. Dans la mesure où on va avoir à terme le projet d'une promenade qui va accompagner tous les bassins, qui prendra corps au fur et à mesure de la constitution du quartier et qui sera évidemment un élément extrêmement attractif du site. Ensuite, on a un autre tout petit décalage, c'est de briser le volume du 4-5 étoiles qui nous semblait beaucoup trop massif et de retrouver deux volumes beaucoup plus petits, plus à l'échelle du reste du quartier construit, plus à l'échelle aussi des constructions existantes. Vous voyez que si on prend la maison des écluses ou les silos, on retrouve deux corps de bâtiments qui ne font plus barre et qui sont beaucoup plus élancés et fragmentés en même temps. Ça nous permet aussi, sur la sente arrière, de retrouver une perpendicularité un peu plus marquée, la présence du 4-5 étoiles qui va venir au bout de la sente, marquer sa présence. Vous voyez la halle des saveurs en bas, la partie horizontale, donc sur la petite image de gauche. Et puis, à droite de la halle des saveurs, le 5 étoiles qui apparaît. Et en même temps, on préserve depuis les bassins la petite vue dégagée sur la cité du vin. Une autre chose, c'est d'éloigner un petit peu l'hôtel 3 étoiles des silos. L'objectif étant de garder l'identité des silos au maximum, de préserver leur élancement, parce qu'évidemment, ce qui est extrêmement agréable dans les silos actuellement, au-delà de la mémoire collective qu'ils portent, c'est cette verticalité dans un univers qui est extrêmement horizontal. Donc il ne s'agit absolument pas de venir en concurrence par rapport à cette chose-là. Et au contraire, de la révéler au maximum. Une autre chose, c'est de mettre en retrait le 3 étoiles. Ça vise exactement la même chose. D'un côté, mettre en valeur la maison des écluses, de façon à ce que depuis notre centre, on l'aperçoit. Et d'un autre côté, qu'on arrive au contraire à dégager le pignon des silos au maximum. Donc, tous ces petits mouvements ont conduit à une volumétrie un petit peu plus fragmentée. et un petit peu plus subtil que les trois volumes initiaux que l'on avait. Alors ça, c'est le plan masse pour... ce que je vous ai montré là sur la volumétrie, évidemment, rend pas le... Bon, on est loin d'avoir fini la présentation, mais quand on fait un projet d'hôtel, c'est en fait de base, ce sont des typologies assez simples, c'est-à-dire que c'est un couloir avec des chambres de part et d'autre, sur lequel par contre on peut trouver des points d'animation assez fascinants, c'est-à-dire que le plan lui-même est extrêmement simple. Par contre, on peut trouver des éléments de programme complémentaires un peu plus intéressants. Ce qu'on appelle à l'agence la mécanique du plan, donc, ou l'art de la distribution à la française, qui est, ça, c'est un dessin du XVIIIe siècle qu'on aime beaucoup, qui montre à quel point dans des géométries extrêmement fragmentées, on arrive quand même en manipulant le plan à trouver des mécaniques, des fragments, des choses assez exceptionnelles par endroit. Tout ça est une petite introduction pour vous présenter le travail qu'on a pu faire sur l'hôtel. Cette mécanique du plan, par exemple, ça, c'est un gros hôtel qu'on développe à Paris, un hôtel des cinémas, des commerces. Quand vous regardez le plan en lui-même, le plan parle peu. Donc, il va falloir essayer de se projeter dans les différents espaces. Là, vous voyez les façades sur rue de l'hôtel du cinéma. Et puis, en même temps, quand on rentre à l'intérieur, on va trouver des halls variés, des verrières, des espaces absolument magiques, différents lieux de restauration, différentes, évidemment, qualités de chambres. Et donc, c'est tout le tout dans une enveloppe qui va être extrêmement simple. Alors, la complexité actuellement, c'est qu'on est en attente du travail des décorateurs qui va nous permettre d'affiner un petit peu plus. Néanmoins, le projet actuellement montre un petit peu ces choses-là. L'idée pour le para-hôtelier, pour commencer, c'est d'avoir un rez-de-chaussée qui est très ouvert, de ne pas avoir une résidence étudiante d'un côté, une auberge de jeunesse de l'autre. Dans les fêtes, aux étages, il y aura une différence, mais d'avoir un rez-de-chaussée où tous les différents services vont pouvoir se connecter les uns avec les autres. Donc, vous avez dans des volumes, imaginez les volumes pleins, tout ce qui est servant, et puis les différents halls, salles de réunion, bibliothèques, salles de travail, salles de petit déjeuner, qui vont agrémenter le rez-de-chaussée. Vous avez au rez-de-chaussée du 3 étoiles, de la même façon, vers les silos, un grand espace qui pour l'instant est blanc, qui sera le hall d'accueil, qui accueillera évidemment une brasserie. Donc, un programme qui sera intéressant par sa capacité à installer une porosité entre la quai du Maroc et le jardin des silos. À l'arrière, le back of the house du 3 étoiles, donc tout ce qui est service, lingerie, etc., etc., qui viennent se connecter à une cour couverte, qui est cette partie-là. Cour couverte commune entre le back of the house du 4-5 étoiles, donc qui est dans un des deux volumes du 5 étoiles, avec dans l'autre volume au rez-de-chaussée des salles de réunion divisibles qui viennent animer l'espace public vers la halle des saveurs. C'est évidemment des lieux qui pourront être privatisés. C'est évidemment des lieux qui sont programmés en termes de vie. Donc, on n'est pas du tout dans des salles de réunion fermées. On est dans des choses qui vont pouvoir accueillir des congrès, des événements qu'on va pouvoir louer pour des réunions à trois ou sur l'ensemble de la salle. Enfin, de chaque petite salle ou l'ensemble de la salle. Toute l'astuce, c'est de dire qu'on arrive à faire l'accès du 5 étoiles par les silos. Donc, on utilise toute la partie nord, comme donc vers la rue de Gironde. Toute la partie nord vers la rue de Gironde comme lieu de desserte. On utilise deux silos par lesquels on passe et on traverse le jardin des silos dans un cordon de liaison que je vais vous présenter un petit peu plus tard, qui va accueillir le lobby du 5 étoiles ainsi qu'un bar de lobby dans ce jardin qu'on espère le plus luxurieux possible. Là, c'est un plan de chambre après dans les étages. Alors, le plan de chambre, ce que je vous expliquais tout à l'heure, est extrêmement simple en lui-même. Néanmoins, on va retrouver des suites de petites intentions intéressantes, notamment pour le 3 étoiles, l'arrivée... Alors c'est assez compliqué sans pointeur, mais l'arrivée des ascenseurs qui arrivent sur un palier avec une vue dégagée sur les bassins. Vous voyez les ascenseurs vitrés dans la faille du 5 étoiles qui vont développer une sorte de travelling vertical sur le jardin des silos, qui arrivent sur des paliers qui seront largement vitrés, plein sud sur la ville de Bordeaux. Les escaliers en façade, façon à avoir des apports de lumière naturelle dans tous les couloirs. Donc des suites d'intentions comme ça, évidemment, jusque dans les chambres, mais je ne vais pas aller jusque-là pour l'instant. Mais sur le toit du 5 étoiles, on propose deux programmations, deux destinations. Un restaurant pour la partie qui est à gauche du plan, et un spa, salle de fitness, salle de massage, sauna, hammam pour la partie qui est à droite. Avec de larges terrasses, plein sud. Donc l'idée qu'on sera dans le spa, évidemment, c'est de pouvoir se baigner dans un bassin, dans un volume très vitré, je vais vous le présenter par la suite, prolongé par la terrasse au sud. Voilà la chose en volumétrie, avec l'échelle des percements, etc. Et petite chose auquel on est très convaincu, c'est toujours compliqué de présenter un projet sans parler du reste de son travail. On est convaincu que l'architecture doit être faite par l'usage. C'est quelque chose qui a l'air d'être un lieu commun. Donc ça semble être un lieu commun, et en même temps, ce n'est pas évident d'essayer de tenir cette ligne où on fait en sorte que seul l'usage écrive l'architecture, tant dans la volumétrie que les façades. Ça, c'est une opération qu'on mène à Grenoble. Quand on retire toutes les façades, les balcons, etc., eh bien, on s'aperçoit qu'on y lit les typologies, les celliers, les différentes tailles d'appartements. On aime bien cette espèce de chose où à un moment donné, c'est le jeu des rideaux, des voilages, des ouvertures des fenêtres, la vie des gens qui vont dessiner l'architecture. Une autre chose, évidemment, c'est comment est-ce qu'on dans un site avec un tel passé, on arrive à trouver l'ancrage dans le site, sachant qu'un hôtel n'est absolument pas des silos, n'est absolument pas une structure industrielle, ne doit pas communiquer ça. Comment est-ce qu'on arrive donc à trouver cet esprit industriel tout en proposant une structure touristique d'accueil le plus agréable possible. Donc on pense que ça, c'est des thèmes qui nous sont assez chers. On peut travailler, par exemple, sur la structure. La structure en elle-même exprime les différents éléments du projet. Ça, c'est un bâtiment de bureau qu'on mène, donc je ne vais pas m'apesantir dessus, mais vous voyez juste le changement de trame du rez-de-chaussée par rapport aux éléments d'étage, où le déjeu sur des doubles hauteurs sur les derniers étages marque complètement et oriente totalement le bâtiment. Une autre chose, ça c'est un lycée qu'on est en train de construire, c'est la vérité constructive, essayer de montrer la structure, essayer d'assumer les fluides. Donc peut-être par la construction, essayer de retrouver cette espèce d'identité industrielle du site. Et puis en même temps, il y a un grand écart à faire parce que Bordeaux, c'est pas du tout une ville d'industrie. Bordeaux, c'est une ville d'une échelle assez basse. C'est une ville de pierre blonde. Et donc, on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait en même temps essayer de faire cette architecture un petit peu industrielle, parfois un peu dure, un peu sèche, et en même temps l'adoucir par le travail de la matière pour essayer de retrouver la pierre blonde de Bordeaux. Donc on travaille sur d'autres projets à Bordeaux, on décline différentes textures, différentes matières. Donc ça, par exemple, ce sont des briques de ciment, qui sont des éléments qui ne sont pas très onéreux et qui en même temps ont un rendu qui est très très doux. Donc ça, c'est un projet qu'on développe actuellement sur la ville de Bordeaux. Mais évidemment, travailler avec le gendre, c'est surtout une occasion exceptionnelle, extraordinaire, c'est de travailler le béton. Le groupe Le Gendre, au-delà de Le Gendre Immobilier, c'est avant tout une entreprise de maçonnerie qui a prospéré considérablement, mais qui a à sa tête des gens qui sont des amoureux intransigeants du béton. Donc là, le siège de Le Gendre à Rennes, avec un superbe ouvrage de Pont-Dévy Architecte. Nous est venue très vite l'idée de travailler sur des bétons préfabriqués, des bétons teintés, des bétons qu'on va laver et qui vont retrouver la minéralité de Bordeaux et puis les tons aussi de la ville. Le béton préfabriqué en lui-même, donc là vous voyez une autre opération qu'on mène avec un exemple de matrice permet complètement de retrouver cette minéralité industrielle que l'on cherche. Et puis évidemment, en travaillant les teintes, eh bien, on peut partir de ton pierre, on peut aussi trouver des choses plus grises, on peut aussi trouver des choses plus rouges, plus rouilles. Donc on va travailler autour de ces thèmes-là. Une autre chose, c'est d'intégrer la dimension paysagère du jardin des silos. On est dans une région, comme vous le savez, qui est absolument magnifique. Donc c'est prendre des éléments très indigènes, mais qui ne sont pas des éléments urbains nécessairement, et puis les assembler dans un jardin très luxuriant, dans lequel on va venir trouver des pins, dans lequel on va venir trouver des jeux de graminées, qui vont faire ce jardin qu'on espère à la livraison le plus luxurieux possible. Luxuriant possible, pardon. Et puis à l'intérieur, le lobby, quelque chose de beaucoup plus zen, beaucoup plus calme et une architecture qui cherche à trouver le maximum de liens avec le jardin. Et entre guillemets, enfin, la complexité ultime, c'est l'intégration au-delà de Bordeaux, au-delà de l'histoire industrielle, c'est l'histoire aussi d'un quartier, le quartier des Bassins, avec une diversité formelle. Pas mal de matière, un peu en des jeux d'acier, des jeux de tôle, ces jeux de volumétrie. Donc essayer de respecter, de réintégrer cette histoire. Donc les formes industrielles du site, le travail sur les rez-de-chaussée et l'attique. Donc là, vous voyez des petites vues de l'hôtel qui se dévoilent. Et ce travail sur les façades, donc, qui prend forme avec ce que je vous disais tout à l'heure, sur une architecture dessinée par l'usage. Au rez-de-chaussée, on va venir trouver le hall, le lobby, les salles de restaurant. Ça, c'est le 3 étoiles. Au-dessus, les fenêtres des chambres. Qu'est-ce qu'un hôtel, à part une superbe vue, un rapport à la vue particulière? Donc là, on a des fenêtres qui ont une allège de 70 cm, une hauteur de table, mais aussi une hauteur où, quand on sera dans le lit, on aura la vue dégagée sur l'extérieur. Une architecture d'horizontale et de verticale, très simple, sans quincaillerie, en béton. Et puis, sur le toit, dans le cas du 3 étoiles, des suites familiales et une grande terrasse panoramique accessible. Dans le cas du 5 étoiles, on va venir trouver le restaurant et le spa de destination avec ses formes très caractéristiques des bassins, ses jeux de toiture, dans des structures beaucoup plus légères, beaucoup plus métalliques, beaucoup plus vitrées. Voilà donc tout ce travail qui commence à prendre forme. Les façades sur lesquelles je passe évidemment très rapidement. Les silos, on les garde au maximum dans leur jus. On va évidemment les remettre en état parce qu'ils posent des questions de structure actuellement. Ça, c'est la vue sur la Venelle. La vue du 5 étoiles au sud, avec la partie, la faille vitrée des ascenseurs au centre du 5 étoiles, et le restaurant et le spa au dernier étage, ainsi que le village de salle de réunion au rez-de-chaussée. Et voilà les vues de l'hôtel au final, avec cette chose qui nous intéresse beaucoup, qui est l'extrême simplicité de l'écriture architecturale des rez-de-chaussée et des pianos nobilés des chambres, rehaussée par les horizontales au dernier étage avec ces lieux de programmation qu'on espère exceptionnels, donc le restaurant, le spa et la terrasse panoramique du 3 étoiles. Cette façon aussi dont ces grandes terrasses à projection viendront refléter la ville en dessous, ce seront des surfaces qui seront totalement miroirs, avec des platelages au-dessus, donc quelque chose qu'on espère très, très portuaire, et évidemment des points d'observation sur le quartier et sur la ville magnifique. La séquence d'accès, où on passe sous les silos, on va vraisemblablement couper les titines des silos pour essayer de réintroduire la lumière naturelle dedans. Et cette séquence d'accès qui peut être assez magique à l'hôtel 5 étoiles, où on va traverser les silos, puis le jardin, atteindre la faille vitrée et monter dans sa chambre. La vue de dessert, de la place de dessert du 5 étoiles. On voit la structure paro-hôtelière derrière, ce sera l'auberge de jeunesse. Les silos par lesquels on passe, le jardin en question, avec le lobby d'accueil et le bar de lobby au centre. Là, on est depuis la terrasse du 3 étoiles, parce qu'évidemment, la brasserie, le hall du 3 étoiles profiteront de ce jardin. La vue au sud du 5 étoiles, avec toute la partie, donc ça, ce sont des documents d'études, tout l'espace public piéton au pied du bâtiment, dans l'interaction entre les salles de réunion du 5 étoiles et la halle des saveurs, et puis les grandes terrasses du restaurant et du spa, avec donc là des vues qu'on espère assez uniques sur le fleuve, la cité du vin et la vieille ville. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure, une architecture extrêmement simple et par contre rehaussée par ses points d'usage. Il faut imaginer la nuit, ce que pourront être les animations, les jeux de lumière sur le toit de l'ensemble. Voilà. Avez-vous des questions ? Alors, Claire Blanchard de Legendre Immobilier.
Bonjour. Je voulais juste vous préciser en termes de timing que Benjamin vous a dit que la halle des saveurs était en chantier. En fait, on est en fin de chantier et elle va ouvrir à l'automne. Les bureaux, eux, ouvriront à la rentrée en septembre. On est sur une fin de travaux au printemps avec derrière des travaux d'aménagement des différents preneurs. Et puis les hôtels devraient ouvrir à l'été 2020. Alors, sur les silos, aujourd'hui, la destination finale n'est pas arrêtée. Je vous le dis un peu en avant-première, ça va être annoncé officiellement demain. On va lancer un appel à projet parce qu'en fait, beaucoup de personnes s'intéressent aux silos pour mettre des galeries d'art ou autre chose. Donc, un appel à projet va être lancé pour prendre toutes les idées qu'il y aurait. Sur les six silos restants, les deux premiers silos, suivant la présentation de Benjamin, restent l'entrée du 5 étoiles. Si vous avez d'autres questions, on peut y répondre après. On va laisser la place parce que, voilà, en raison d'un retard de train, on a commencé la conférence beaucoup plus tard que prévu. Merci.
Freddy ? Pardon, oui.
Maintenant, le micro est silence. Mais
quand tu commences, je mettrai la première.
Vous en avez un deuxième?
Oui.
On a une zapette. C'est pas très loin. Je serai pas en retard.
Mesdames et messieurs, la conférence de 17h tenue par ACPRIM concernant l'îlot Castorama aura lieu à l'espace Jardin.
Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de
d'être ici à cette présentation de l'Oasis Urbaine. Donc je vais présenter l'équipe qui va vous présenter ce projet. À ma gauche, Olivier Brochet, urbaniste et architecte d'une partie de l'opération, l'agence BLP de Bordeaux. Et Freddy Charrier, paysagiste de l'agence Let's Grow. Et nous allons vous présenter, moi-même je suis Laurent Mathiolon d'ACPRIM. Nous allons donc vous présenter ce projet ambitieux de reconquête urbaine sur le site actuellement occupé par Castorama à Mérignac-Soleil, à côté du centre commercial de Carrefour. Je vais donner la parole à Olivier qui va vous présenter le projet.
Bien, merci Laurent. Ce projet s'inscrit sans doute pleinement dans le thème d'Agora cette année, à double titre. D'abord parce que c'est un projet d'urbanisme, d'architecture et de paysage que nous menons avec Freddy Charrier, mais aussi au-delà de ça parce que les thématiques qu'il sous-tend sont pleinement d'actualité sur une part de la métropole, mais aussi à l'échelle de toutes les métropoles européennes. En cela, c'est un projet mérignacais, mais c'est surtout un projet qui s'inscrit dans des logiques de mutation des zones urbaines périphériques destinées au commerce depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un sujet d'actualité parce que finalement la grande industrie du commerce reliée au réseau routier périurbain, eh bien finalement on en voit aux quatre points cardinaux de la rocade et de la métropole, et tout ceci vu l'augmentation de la métropole, l'augmentation en qualité aussi, en mixité, en demande de logements différents, en demande de reconquête d'urbanité. Tout ça fait que ce sont des territoires qui sont désormais ouverts. Ouverts ici comme ailleurs. Et le point particulier de Mérignac-Soleil, c'est que cet îlot de Castorama s'inscrit dans une volonté large de reconquête de ces territoires avec un plan d'urbanisme global auquel on va s'accrocher et qui se fait dans le même temps, qui est mené par l'agence de Rem Koolhaas OMA. Alors revenons un peu en arrière. Au fond, on voit dans les années 50 ces territoires dont je parle, qui aujourd'hui sont totalement urbanisés et intra-rocades, eh bien c'est la nature, c'est la nature organisée par un parc d'un château, c'est le parc Féau. Voilà. Parc Féau, avant d'être colonisé par l'urbanisation des années 70, qui, comme vous le voyez, faisait la part belle au paysage et conservait à l'intérieur de ce parc résidentiel des grands axes plantés, des grands doigts végétalisés qui restaient les vestiges du parc du château d'origine. Tout ça se fait coloniser progressivement. Et ce qu'on voit sur cette image de 2016, c'est que les champs autour de ce parc ont disparu. Et il reste cette échelle que vous voyez ici de grandes plaques industrielles qui sont les grands commerces qu'accompagnent inexorablement, enfin la grande distribution qu'accompagne inexorablement les grandes plaques de stationnement des véhicules. On voit donc que ce projet se situe dans une lisière, je dirais qu'il reste, il y a ici les restes du paysage d'origine, il y a le parc Féau et son aspect résidentiel de qualité, il y a l'avancée de la ville périphérique, de ces petites échoppes, de ces petits terrains et surtout de ces lotissements sans qualité, entre guillemets sans qualité, puisqu'ils en ont beaucoup des qualités, notamment celui d'avoir un habitat individuel, et on y reviendra, mais sans qualité sur le plan de l'espace public. Et bien entendu, au milieu de tout ça, accompagnant les radiales de la métropole de Bordeaux, le grand déballage de la grande distribution. Voilà donc un thème, comme vous le voyez, qui dépasse largement notre petite opération, puisque vous voyez notre petite opération, c'est le point bleu, mais qui évidemment développe en son sein des préceptes que nous allons exposer maintenant. Et ces préceptes, ces concepts étant une possible base pour l'aménagement de tous les territoires qui reposent sur cette échelle de grandes plaques à reconquérir. Il ne s'agit pas ici de faire de la petite couture, de revenir à des idées d'espace public qui mimeraient l'urbanité ou la centralité urbaine, comme les rues, les îlots, etc. Il s'agit de s'appuyer sur ce qui existe et de venir ici, dans cette situation difficile, finalement, improbable il y a encore 5 ou 10 ans, de venir reconquérir ici, réinstaller des qualités de vie et des qualités d'habiter. Et finalement, c'est cette situation hybride, mixte dès le départ, qui nous permet d'introduire une diversité urbaine, une diversité de façons d'habitat, une mixité de fonctions qu'accompagne l'architecture, la granulométrie de cette architecture, les tracés urbains et bien entendu les tracés du paysage. Donc vous voyez, considérons cette forme bleue, improbable, comme un univers possible. Mais une fois de plus, pour ceux qui connaissent Castorama, pour ceux qui connaissent les arrière-boutiques de ces grands espaces de distribution, honnêtement, quand il nous a été posé la question, faisons ici un concours finalement avec beaucoup d'ambition, allons amener ici beaucoup de logements, eh bien, la question à se poser, c'est vraiment, est-ce que c'est possible ? Et donc, il s'agit bien d'un urbanisme de reconquête, ou plutôt, je dirais, de réparation. Hein, il faut réparer, parce que c'est bien nous, enfin, en tous les cas, la génération d'avant, qui a produit cet urbanisme monofonctionnel, où il y a les espaces pour le commerce, les espaces pour l'habitat, et puis les espaces pour les espaces verts, ceux qui restent, finalement. Et aujourd'hui, on va faire quelque chose qui va hybrider tout ça. La solution, elle n'est pas toute trouvée, elle est difficile, parce que ici, vous voyez, on est dans une échelle un peu intermédiaire. On peut dire que c'est un grand projet, mais ce n'est pas un projet assez grand pour régler l'ensemble de la question. La preuve, tout ce qui est en jaune, une bonne partie de ce qui est en jaune continue à fonctionner comme avant. Et ce qui est en orange ou en rouge ne va pas muter, puisque c'est la propriété individuelle, la petite parcelle, la ruelle et tout ce qui fait que ces univers de lotissement sont aimables et enviables. Donc ici, il faut proposer une autre façon qui est une autre façon dans le temps, une synthèse des trois espaces que j'ai décrits, mais aussi quelque chose qui va s'installer dans un certain temps au début d'une mutation qui va dépasser notre projet. Et je crois que c'est pour ça qu'on a remporté ce projet, parce qu'on a écrit sur le petit territoire qui nous est donné des données qui dépassent notre responsabilité d'architecte et qui nous amènent à parler un peu du voisinage, de ce qu'il faut attirer chez nous pour que ça soit possible, des qualités qu'il faut tirer de cette situation particulière. Et cette situation que j'ai décrite en trois parties comme ça, bien entendu, on sait bien que demain, c'est sans doute en augmentant et en restaurant l'univers végétal, le parc qui a été interrompu, la nature qui a été coupée par cette plaque de grand commerce, eh bien c'est ce canal-là qu'on va employer. Alors évidemment, aujourd'hui, hein, là où nous sommes, vous voyez Basse qui vient de passer a mis des arbres parce que évidemment la nature est plus aimable que le bâtiment. Et aujourd'hui, on pourrait peut-être nous demander de nous excuser d'être architecte. Hein, il vaut mieux planter des arbres que planter des bâtiments, on est moins critiqué. Hein, je le dis devant toi, on est moins critiqué. Mais néanmoins, une association de ces deux questions nous amènera sûrement à faire un univers aimable, aimable en amenant les qualités préalables du site, aimable avec ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de la petite couture, de la petite maison partout, on fait des choses qui vont s'implanter dans les traces même de cet univers assez violent des grandes surfaces commerciales. Donc, dont acte, cet espace des grandes plaques des commerces nous sert de jauge. Oui, on peut faire du logement à la place d'un rectangle qui abrite aujourd'hui un hypermarché. Et deuxièmement, ces petites flèches que vous voyez sur le côté nous amènent vers le quartier environnant, parce que évidemment, celui-là, comme je l'ai dit, ne va pas muter. Donc, il faut que le parc qu'on va venir amener, que Freddy va dessiner à l'intérieur, comme une artère qui va régénérer ce site, eh bien, ce parc-là, il va servir à la fois à l'univers environnant, existant, aux gens qui habitent là, et aussi à ceux qui vont venir, parce qu'on va transformer ces plaques de grands commerces pour en faire devenir, pour les faire devenir des univers habités. Et bien entendu, le commerce ne va pas s'en aller. Hein, le Mérignac Soleil a une grande surface. Cette grande surface, elle va muter. Et donc, prévoyons qu'en mutant, peut-être, quand la voiture aura changé d'espace, eh bien justement, la grande façade de cette grande surface va nous servir pour aligner et pour préparer l'urbanité de demain. Donc, on ne tourne pas le dos à ces surfaces commerciales, on les intègre en pensant que, sans doute, le bon usage sera que progressivement, elles vont évoluer dans le sens que nous proposons. Et en faisant ceci, en accrochant nos îlots nouveaux à ce grand vaisseau amiral, eh bien, on pense qu'on va développer des nouvelles pratiques commerciales. Comme je l'ai dit, on ne va pas mimer ici le commerce de centre-ville, on va juste essayer d'imaginer des choses qui viennent compléter l'état existant. Et puis, bien entendu, le moteur de cette évolution, parce que ce type de projet se greffe forcément à des volontés politiques globales et métropolitaines, c'est bien parce que tout ça va être desservi par la future ligne de tramway, celle qui va aller jusqu'à l'aéroport et qui finalement fait de cette étape-là un endroit où on peut habiter, un endroit où on peut se relier avec toutes les aménités du centre-ville sans tourner le dos au commerce local. Voilà. Alors, donc, voilà un peu les dispositions en zoomant. Vous voyez le grand parvis jaune, c'est le parvis de la surface commerciale à côté. Le parc descend et traverse l'avenue qui va à l'aéroport pour venir fédérer ici, autour de ce projet paysager, des façons d'habiter qui sont de trois catégories. D'une part, un habitat qui vient se greffer et prolonger l'univers de l'habitat individuel environnant. D'autre part, la grande échelle des îlots commerciaux nous sert pour installer des îlots hybrides, qu'on appelle les îlots métropolitains, et les allées qui amènent du parc vers l'intérieur de l'îlot nous servent d'adresse pour l'ensemble des logements. Donc voilà la nouvelle matrice urbaine. Vous voyez cette espèce d'îlot central un peu pyramidal que je décrirai plus tard. Mais bien entendu, le prolongement du parc du château qui vient créer un vrai axe fréquentable, comme une allée qui entre jusqu'au cœur du quartier et qui n'est là que pour se prolonger. Et au contact de la petite échelle de l'échoppe mérignacaise, une proposition d'habitat qui propose l'évolution de cette typologie d'habitat. On reviendra sur cette image, mais au cœur de cette surface commerciale se trouve comme une pièce d'about cet îlot métropolitain qui introduit la mixité, stationnement, commerce, logement de divers types. Donc, je reviendrai après sur cette typologie d'habitat, mais ce qui relie tout ça, c'est un projet de paysage.
Parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes, on voulait vous en citer quelques-uns, parce qu'ils seront assez évocateurs. Donc, le site de Castorama représente une superficie de 3 hectares. Sur ces 3 hectares, l'ambition était de proposer un aménagement paysager qui allait occuper une grande part du site. Donc, sur ces 3 hectares, on a les 2/3 qui seront demain occupés par un parc d'un seul tenant d'un hectare et plein de ramifications, que ce soit des parvis, des squares, des jardins partagés, des jardins privatifs, des jardins collectifs, des jardins partagés. Et puis, il y a bien sûr tous les ensembles de voiries et de cheminements. C'est un peu plus de 1 km de cheminement qui vont être créés. C'est également 8 500 m² de jardins collectifs et plus de 200 arbres qui seront plantés, 200 arbres et conifères. Donc les enjeux qui ont orienté notre projet, était bien sûr d'intégrer cette nouvelle pièce urbaine dans son contexte urbain, social et paysager. Il ne s'agissait pas de réinventer une nouvelle pièce, mais bien d'intégrer cette nouvelle pièce urbaine dans son contexte. Donc on avait vraiment essayé de faire un travail de couture avec le lotissement, comme le disait Olivier, à l'est, mais aussi un travail de couture avec la zone commerciale qui va muter, mais qui va encore perdurer dans ses fonctions un petit moment. Donc on était vraiment sur un travail de charnière, et en ça, le parc avait toute son importance. On a essayé bien sûr de contenir la place de la voiture pour donner une sensation, enfin pour augmenter la sécurisation des parcours doux. Donc on a retranché l'ensemble des voitures, les stationnements sous les bâtiments, et il y a juste une circulation voiture qui va traverser du nord vers le sud pour bien sûr irriguer les différents bâtiments. On a également voulu favoriser les liaisons douces, justement parce que la voiture est un peu mise à l'écart, donc par ce kilomètre de cheminement. Définir aussi le statut des espaces. Pour éviter les conflits d'usage, il est tout le temps important de définir la place de chacun, où est-ce qu'on est dans le privé, où est-ce qu'on est dans le public, et dans l'échelle intermédiaire, où est-ce qu'on est dans le collectif. Donc il y a eu tout ce travail de couture qui a été mené. Et puis pour finir, il a fallu hiérarchiser et multiplier les espaces paysagers pour que chacun retrouve un peu une possibilité d'appropriation, des espaces de vie généreux, rustiques, polyvalents et intergénérationnels. Donc actuellement, le Castorama, il est à l'image de Mérignac-Soleil. C'est grosso modo, la parcelle de 3 hectares, c'est 90% de surface construite et minérale. Donc notre projet, il inverse la tendance, puisque demain, ça sera donc les deux tiers qui seront des aménagements paysagers. Le tiers restant étant construit. Sur ces 60% d'espaces paysagers, il y aura trois grandes entités paysagères. Donc je vais vous les décrire. La première, c'est le parc du château, qui est l'élément structurant qui va traverser l'ensemble du parc et qui va créer la couture demain vers le Mérignac-Soleil. Donc ce parc, on l'imagine vraiment comme étant le prolongement du parc Féau. Et d'ailleurs, il s'en inspire largement. Il s'agissait vraiment de profiter de tout cette esthétique du parc Féau, donc un paysage très rustique, des pins, des bouleaux, une ambiance un petit peu de sous-bois, qu'on a vraiment voulu prolonger et tirer au travers du projet. Alors j'oublie de passer les slides. Merci. Voilà, donc le parc Féau. Merci. Donc c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un parc qui se veut être le prolongement du parc Féau, une entité d'un seul tenant qui fait un peu plus d'un hectare, mais qui va se ramifier jusqu'à créer des ponts entre ce qui aujourd'hui tournait le dos au Castorama, c'est-à-dire le lotissement. On va créer comme ça des ponts et ouvrir l'îlot Castorama sur l'extérieur. Donc là, on voit vraiment le parc Féau qui s'étire, qui se prolonge, avec une voie qu'on a essayé de vraiment bien contenir, et la place du piéton et du paysage qui est retrouvé, et qui crée comme ça une sorte de transition entre l'échoppe mérignacaise à gauche de l'image, et puis les bâtiments collectifs, dont l'îlot métropolitain crée l'articulation avec les Mérignac-Soleil. Ensuite, il y a en deuxième entité paysagère, il y a les îlots habités. Donc ces îlots habités, le paysage il va décliner les différentes granulométries architecturales dont va parler Olivier juste après. La première, à l'est, c'est les échoppes mérignacaises. Donc là, on est vraiment dans un paysage assez étroit, de venelles, de squares. On est vraiment dans l'échelle domestique. Ensuite, il y a l'îlot métropolitain, donc ce patio luxuriant, espèce de foisonnement comme ça intérieur, un peu secret, autour desquels s'organisent des logements collectifs. Et puis ensuite, il y a l'îlot jardin qui organise finalement et qui donne accès à toute une série de halls. Donc là, on est plutôt dans l'esthétique du jardin collectif qui a vocation à distribuer, mais également à créer des lieux de rencontre. Et la dernière entité paysagère, c'est le parvis. C'est l'amorce du paysage de demain, celle qui viendra se prolonger notre proposition. Donc on est plutôt sur une esthétique qui allie minéralité et végétation, donc sur un parvis qui se veut quand même relativement luxuriant avec de la végétation et qui crée une nouvelle manière de pratiquer le commerce, enfin d'appréhender le commerce. Donc on voulait vraiment faire une proposition qui offrait une diversité d'ambiance sur un paysage unitaire et identitaire. Cette diversité, elle souhaite également répondre à une volonté partagée, qui est celle d'offrir de multiples possibilités d'habiter.
Vous voyez qu'on ne peut pas parler de paysage sans parler d'architecture, et inversement. puisque tout ça est vraiment conjoint et solidaire. Donc je vais, pour finir, décrire un peu finalement de quoi on a pu tirer avantage, au fond, pour habiter là. Parce que la vraie question qui nous anime, c'est ça. Le promoteur, ACPRIM, Claire Sienne, qui fait l'île au jardin, qui fait les logements sociaux, et bien sûr, nous, architectes, c'est de trouver ici, par l'apport que nous amenons, mais aussi par ce qui existe, des vraies façons d'habiter qui conviennent à cet endroit, réparé, réhabilité, et qui n'est que le début d'une grande pièce urbaine menée par la ville de Mérignac et par la FAB. Donc c'est une petite pièce comme ça, et je crois qu'il faut y apporter à la fois de l'attention à l'existant, mais aussi une capacité d'innovation, parce que rien ne se fera si on n'impulse pas dans ces zones un vrai un espace capable de créer du désir d'habiter. Ce désir d'habiter, ce n'est pas en étant isolé, à l'écart de toutes les fonctions qui sont nécessaires à la vie, mais c'est aussi nécessaire de faire muter le commerce, parce qu'habiter à côté ou à l'arrière d'une grande surface, ce n'est pas très agréable. C'est le même problème qu'on rencontre au lac avec d'autres investisseurs, à Ginko par exemple, où finalement l'arrière du centre commercial, ce n'était pas la meilleure façon de greffer le quartier. Donc, il faut retourner les choses. Ici, on voit bien comment cet îlot métropolitain, on l'appelle comme ça, pour dire que peut-être il deviendrait métropolitain, comment en stratifiant dans cette espèce de forme issue de manière un peu basique des anciennes formes de commerce, tout d'un coup, vous voyez, en stratifiant, qu'est-ce qu'on voit ici? On a un principe d'arcade qui loge des commerces et des activités au rez-de-chaussée. Puis au-dessus de ça, on a le stationnement. On voit les stationnements qui sont logés en duplex comme ça. Et puis ces stationnements, ils servent aussi bien au commerce qu'aux gens qui habitent au-dessus. Et au-dessus, on voit qu'il y a des jardins sur des terrasses. Et puis enfin, d'autres terrasses. Et enfin, des gens qui habitent au sommet de cette espèce de petite pyramide dont on voit ici le plan. Alors, je n'ai pas de pointeur, mais ce que vous voyez ici, c'est le plan du rez-de-chaussée, où vous voyez qu'il y a une espèce d'îlot de végétation qui est à l'intérieur d'une propriété privée. C'est la périmétrie, comme ça. À la périmétrie, on a les fonctions commerciales. Au centre, on peut avoir des activités comme une crèche, la conciergerie, les services, etc., qui est un pôle médical, qui viennent faire une sorte de soubassement et s'installer dans cette clairière qui est au centre du terrain, le plus profond possible. Au fond, c'est ça qui crée le point d'amer, le point d'attirance. Le jardin de Freddy va nous amener jusque-là et après au-delà. Mais c'est une forme mixte. Vous voyez là le circuit, les halls d'entrée, on entre dans un hall, la conciergerie, mais après on passe au-delà de ce hall vitré dans un jardin privé. Il y a un parvis privatif et il y a une arcade publique sous laquelle on va passer pour longer cet îlot. C'est en cela que cet îlot, qui est aujourd'hui complètement à l'arrière-boutique, prend une certaine dose d'urbanité, parce que il allie toutes les fonctions urbaines, le commerce, le véhicule qui est accepté et les logements qui viennent au-dessus. Donc, vous voyez cette coupe schématique où on voit des différences de typologie. Ce qui est en bleu, c'est des logements duplex. Ce qui est en gris, c'est des logements simplex. On voit le caractère un peu privé, aigu du patio central, la générosité des arcades qui montent sur deux niveaux, c'est-à-dire un peu plus haut qu'ici, où on va passer sous le porche, comme les arcades de la rue de Rivoli ou des choses comme ça, où on est dans une logique publique et collective affirmée, et dans le rose, les commerces et les services. Et puis le parking des logements qui, comme je vous l'ai dit, se met soit en sous-sol et disparaît, mais aussi en duplex pour le commerce, c'est-à-dire qu'au lieu d'entrer dans un sous-sol pour aller se garer et aller faire ses courses, au contraire, on monte et on se situe à l'étage dans un parking qui est aéré et qui regarde sur l'extérieur. Donc cette type, et puis au-dessus, le développement de cette corolle de logement autour de ce patio central, où on a une bonne partie de duplex, une partie de duplex évolutif que Laurent décrira Donc ça, à moins que tu veuilles en parler maintenant du.
Nous avons souhaité, c'est offrir autour de ce grand paysage qui va structurer ce nouvel espace de Mérignac une très grande diversité, on va dire, de façon d'habiter. Olivier va vous décrire en détail les différents îlots avec de la maison individuelle à l'îlot métropolitain. Nous considérons chez Agprime qu'aujourd'hui, effectivement, dans l'offre générale de la promotion immobilière, on est souvent sur des choses très répétitives, un peu aseptisées, et on propose effectivement toujours à peu près la même typologie de logements. Nous, notre vision, au contraire, c'est de dire que, à l'image de la société qui est aujourd'hui très variée, avec des attentes qui sont différentes, aujourd'hui, notre métier, c'est aussi d'imaginer les demandes de demain. Et pour cela, on souhaite apporter dans une très grande partie de cette programmation une configuration de logement évolutif qu'on a déjà réalisé sur d'autres projets qui sont habités aujourd'hui et qu'on appelle notre concept MOVE, qui est un logement qui permet de s'adapter aux besoins des occupants du logement au fil du temps par l'ajout d'une surface à l'intérieur de ce même logement sans aucune démarche administrative, puisque cette surface est d'ores et déjà intégrée dans le permis de construire. Il ne nécessite pas non plus de modification du règlement de copropriété parce que c'est inscrit dans le règlement de copropriété d'origine et avec des modalités techniques extrêmement simples qu'un particulier pourra réaliser lui-même et pour un coût extrêmement modique, inférieur à 500 euros du mètre carré habitable. Donc, dans cet îlot, on a un peu plus de la moitié des logements qui sont réalisés sur ce concept MOVE. On va le retrouver également sur d'autres îlots avec d'autres formes d'habiter. Et cela fait partie, on va dire, de la segmentation très large d'offres que nous souhaitions apporter. Il y a une grande richesse, effectivement, sur le paysage. Il y a une grande richesse sur l'architecture. Mais on a souhaité également avoir une grande richesse programmatique.
Donc, voilà, l'engagement et au fond, le challenge, c'est à cet endroit-là d'aller par cet îlot qui est le plus engagé dans le territoire anciennement dédié au commerce, cet engagement de qualité, de typologie d'habitat avec le hall commun, la conciergerie, le jardin privé. C'est finalement cette oasis qui constitue la pièce d'about. Mais encore faut-il y arriver. Une autre question, le long du parc de Freddy, qui correspond à une nouvelle vision d'une possibilité d'habiter là, c'est-à-dire ce que vous voyez ici sur le côté, ça pourrait ressembler, on pourrait dire, oui, c'est du collectif, très bien, mais quelques données de base dans ce collectif, c'est que bien entendu, les typologies dont on a parlé à cet endroit-là, comme les duplex, etc., se développent, mais aussi et surtout les notions d'adresse. C'est-à-dire qu'il faut que sur ce parc, les logements donnent et que de ce parc, qui est une circulation finalement, une circulation douce, bien sûr, si on arrive en voiture, on va se garer ailleurs. Mais en revanche, quand on arrive à vélo, en tant que piéton, eh bien, finalement, on va trouver tous ces pieds d'immeubles qui sont constitués d'adresses, au fond, comme s'il y avait des maisons tout le long de cette voirie. Et ça, c'est une façon de traiter le pied d'immeuble qui permet d'avoir à la fois cette qualité de l'espace public. Et puis au-dessus, on développe tout un agglomérat de typologies de logements différents et variés. Donc c'est un projet stratifié qui fait l'alignement et la façade sur le parc. Et puis enfin, la troisième typologie, qui est l'avant-dernière, qui d'ailleurs est en train de muter, parce que là, elle est un peu caricaturale. Ça, c'est en phase concours. Il faut aussi vous dire que moi, je parle au nom de trois équipes d'architectes, puisque dans ce projet qu'on a mené ensemble, après, nous avons associé sur certaines typologies des jeunes équipes d'architectes, c'est-à-dire la nouvelle agence, qui fait l'îlot sur le long de la grande avenue, et puis Two Architects, qui sont deux jeunes architectes, qui vont faire les maisons. Voilà, en tous les cas, l'objectif, évidemment, tout simplement exprimé dans ce document, c'est que ce qui va au contact du tissu urbain existant ne crée pas un choc, ne crée pas un trouble à ce qui existe, et permette que le projet vienne atterrir finalement, voilà, à proprement parler, s'ancré dans ce territoire. C'est l'enjeu de cette trilogie comme ça que j'ai repéré dès le début et qui nous sert de racine à un projet qui tente en tous les cas d'équilibrer ces trois données. Voilà, donc le village peut continuer sur ce territoire. Et quand je dis aujourd'hui, c'est un peu caricatural parce que ce qu'on avait présenté à ce moment-là l'était un peu. Et on est en train de le faire évoluer dans une chose plus complexe et plus hybride entre le collectif et l'appartement. C'est-à-dire un peu plus comme celui-là où les choses s'assemblent entre le logement individuel et le collectif. Et puis ici, évidemment, comme vous l'avez vu dès le début, le territoire est morcelé et en cours de recomposition par un plan municipal plus large et avec la FAB. Et donc, il y a des parcelles comme ça qui donnent lieu à des exercices qui vont être des étapes dans le temps. Parce que nous, on a la chance d'avoir un territoire relativement grand, comme je disais, ni grand ni petit, mais autour, il y a des fonciers qui vont muter. Voilà. Et alors, il faut bien comprendre à quoi ils s'accrochent. Ce que dit ce schéma, c'est qu'on voit bien que juste sur cette partie de territoire, le projet que je viens de décrire et qui s'étend vers le sud, eh bien, tente cet assemblage d'échelles différentes qui va à la fois permettre de reconquérir les anciens commerces, permettre de s'adapter et de s'harmoniser avec l'univers des shops mérignacaises et surtout tirer vers ces anciennes plaques stériles constituées de stationnements et de grands hangars, finalement, permettre de reconquérir et de redonner une urbanité là-dedans par ce traitement des espaces publics. Voilà, je crois qu'on a dit l'essentiel. Après, je ne sais pas s'il faut entrer dans la programmation détaillée de tout ça. C'est peut-être un peu technique. Je préfère que s'il y a des questions, on y réponde, non? Qu'en penses-tu? Merci.
Des questions peut-être? C'est toujours la première qui est la plus difficile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait peut-être avoir des précisions sur tel ou tel sujet? Bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, mais en tout cas, on vous remercie. Ce que je pourrais peut-être juste dire en mot de conclusion, c'est qu'effectivement, on vous a présenté le projet dans sa phase concours, tel que nous l'avons présenté en fin d'année dernière. Pardon. Nous avons depuis, effectivement, avec l'ensemble des équipes de maîtrise d'œuvre, Clercienne et ACPRIM, pour nos îlots respectifs, rencontrer à nombreuses reprises les habitants, aussi bien, on va dire, les habitants des logements ainsi que certains d'entre eux pour les surfaces commerciales. Donc c'est un projet qui est en train de passer d'une étape concours à un projet plus concret de permis de construire. Il n'y a pas d'évolution majeure. Petites évolutions, on va dire, mais qui vont totalement dans le sens de ce que vous avez présenté, c'est qu'on a un petit peu encore agrandi le parc. On a réduit encore un peu plus l'espace dévolu à la voiture en la voie de circulation qui traverse du nord au sud, au lieu d'être en double sens, elle passe en sens unique. Donc on peut dire que l'espace dévolu aux piétons et aux espaces verts, c'est un peu encore agrandi. On a travaillé un peu plus sur la couture effectivement de liaison avec les logements existants. On a rajouté quelques fonctions effectivement, ou en tout cas rencontré un intérêt sur les espaces de service qu'on va intégrer dans cette opération, une crèche de garderie, un cabinet médical, une conciergerie à la fois à l'usage des habitants, mais également qui sera ouverte en termes de service avec l'ensemble des habitants du quartier. Et puis, on a pour ambition de partager, de continuer à partager et d'échanger avec les habitants au sens large du quartier, hein, parce qu'on a rencontré à la fois les habitants des maisons qui sont à l'est, mais également les habitants du parc Féau pour travailler ensemble sur l'aménagement du parc, à la fois dans son paysage, mais également peut-être de mobilier urbain, d'usage. Voilà, je pense que c'est les premiers usagers du parc, enfin l'extension du parc, ce sont déjà les habitants qui habitent sur le site, qu'on a la chance de pouvoir rencontrer facilement. Les autres usagers, ce seront nos futurs habitants de logement, mais pour l'instant, on ne les connaît pas encore, mais on espère à un moment donné pouvoir les faire participer à cela. Et on a prévu de faire toutes ces rencontres au travers d'une maison du projet qui sera installée prochainement avant la fin de l'année sur le site lui-même, devant Castorama, et qui nous servira de lieu de présentation, de lieu de rencontre, avec une dimension, on n'en a pas parlé, artistique, qui va venir s'inscrire également dans ce projet sous différentes formes, à la fois dans l'espace public, mais également dans le projet. Voilà. C'est la première fois que ce projet de Castorama est présenté en public. Pour l'instant, il n'y a que la collectivité, la Fabrique métropolitaine, Bordeaux Métropole et les riverains les plus proches que nous avons rencontrés. Donc, je suis ravi, au nom de l'équipe de maîtrise d'ouvrage Claire Sienne et Acprime, d'avoir pu faire cette présentation. Et on se tient à vos dispositions. Voilà, vous avez nos Acprime, vous pouvez nous contacter, ainsi que Claire Sienne. Il y aura d'autres étapes de présentation dans les mois qui viennent jusqu'à la réalisation du projet qui devrait démarrer à la fin de l'année 2018, concrètement sur le site. Merci à vous.
Allô. Allô?
Mesdames et messieurs, la conférence à 18h tenue par Cap Science sur les nouveaux usages de la lumière dans la ville est prévue dans l'espace court et va démarrer dans quelques instants. La conférence également prévue dans l'espace jardin à 18h tenue par Mesolie.